Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, ou bien de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour chers auditeurs, nous vous proposons depuis le début de l'été de redécouvrir Dino Buzzati. Nous en sommes à notre 5e émission de nouvelles tirées du livre Le Cas. Toutes les émissions précédentes sont disponibles à la réécoute sur le site de Studio Zef. Aujourd'hui, L'arme secrète et La jeune fille qui tombe.
L'arme secrète. La troisième grande guerre que l'on avait tellement redoutée eut la durée exacte prévue par les techniciens militaires, moins de 24 heures. Mais le déroulement du conflit démentit toutes les prophéties. Entre autres, il laissa les choses exactement comme auparavant. Lorsque le conflit s'envenima à propos de la terre de Weeping dans l'Antarctique, dont la possession était contestée par l'Amérique et la Russie, on put croire à un de ces innombrables prétextes marginaux de politique. Mais la terre de Weeping, qui est une étendue à peu près inexplorée des deux côtés d'une chaîne de pics, devait cacher quelques trésors mystérieux connus seulement des grands services secrets. À l'improviste, peut-on dire, au milieu de l'étonnement des peuples, le duel de la guerre froide prit un aspect sinistre et inquiétant. D'un côté et de l'autre, on tint des discours d'autant plus menaçants qu'ils étaient imprécis. Et on parlait avec une insistance vraiment ingénue d'armes nouvelles et secrètes, définies comme inconcevable, incroyable, fabuleuse, qui en quelques heures contraindrait l'ennemi à une reddition totale. Alors que l'écho de ces messages terrifiants résonnait encore dans l'esprit des gens, l'ultimatum de Moscou éclata comme un coup de tonnerre. Dans un délai de 48 heures, la terre de Weeping devait être évacuée par les avant-postes américains. L'ultimatum était si brutal et si précis qu'il n'était plus permis d'espérer. Washington, comme tout le monde, s'y attendait, ne répondit pas. Et dans tous les États de la Confédération, l'ordre fut donné de déclencher les dispositifs de danger immédiat. Alors reparut la grande peur que depuis tant d'années les gens avaient oubliée, cette sensation de perte imminente de tout ce qui faisait la vie. Et les choses ennuyeuses et misérables de l'existence quotidienne, le fait de se réveiller le matin dans son lit, la première cigarette, le tram, la vitrine illuminée, le travail à l'usine ou au bureau, la flânerie, le caprice d'un enfant, le cinéma en quatrième vision, les chaussures neuves, la loterie, le samedi soir, devinrent soudain le symbole de la félicité humaine. Bien qu'existant toujours, parce que l'on comprenait que bientôt, on allait les perdre à jamais. Chacun sur Terre pensa avidement à lui et aux siens, dans l'espoir de trouver une échappatoire. Mais cela faisait trop longtemps qu'on prédisait et qu'on jurait qu'une nouvelle guerre était impossible, justement parce que le monde entier en serait anéanti. Personne, en conséquence, ne s'était préoccupé sérieusement de se protéger et les prescriptions des autorités concernant la construction de refuges, les provisions de vivres, étaient même restées lettres mortes. Le désarroi des hommes abandonnés à eux-mêmes fut d'autant plus grand devant l'apocalypse menaçante. Par chance, si on peut parler de chance, l'angoisse de l'attente fut brève. Le délai de l'ultimatum russe n'était pas encore écoulé et beaucoup se cramponnaient désespérément aux raisonnements les plus étranges et les plus faibles dans leur obstination à survivre quand un communiqué radiophonique répété sans interruption par toutes les stations glaça les cœurs. L'état d'alerte générale du troisième degré, le plus grave, était proclamé sur tout le territoire des États-Unis. L'URSS venait de lancer un nombre incalculable de missiles gonflés de ruines et d'hécatombes qui allaient tomber, au plus tard, dans les 2 heures à venir, sur la Confédération. En réalité, leur nombre n'était pas indéterminé, car les stations d'interception disséminées dans l'Arctique avaient, à des milliers de kilomètres, perçu l'approche de projectiles et enregistré l'intensité de leur afflux. La première vague, si l'on peut employer ce terme, ne comptait pas moins de 30 000 fusées intercontinentales. Immédiatement, au quartier général opérationnel, la manette fatidique fut abaissée et en conséquence, des impulsions électriques se propagèrent à toutes les bases de lancement américaines d'où jaillirent, avec d'énormes mugissements, des dizaines et des dizaines de milliers de missiles, également porteurs, on peut le présumer, de ruines et d'hécatombes. Ils disparurent avec leurs queues de flammes inquiétantes et lugubres dans les ténèbres profondes de la nuit. Pour celui qui savait, ce fut un moment d'une indicible grandeur. C'était l'orgueil de l'homme qui partait et se perdait dans les espaces. Peut-être pour la dernière fois, ces fusées déchaînées emportaient, semblait-il, toutes les illusions de la vie, petites et grandes, l'amour, les maisons tranquilles, les chères rencontres, les songes de richesse et de gloire, le charme de la famille, le printemps, la sagesse, la musique, les années qui passent, tranquilles. Mais on n'avait pas le temps d'y penser. Les regards couraient anxieux aux horloges. Bientôt, dans une minute, peut-être dans une seconde, il n'y aurait plus rien. Un hurlement sans fin s'éleva de la terre. Dans le ciel très haut brilla l'éclair d'une explosion, puis d'une deuxième, 300, 3000. Après chaque explosion, au reflet des flammes, on voyait descendre comme autant de fils blancs d'araignées, des jets de vapeur qui s'entrecroisaient formant une coupole démesurée en filigrane. Jusqu'au moment où la trame de ces fumées devint si épaisse qu'elle forma comme un baldaquin opaque qui cacha complètement les étoiles. Il y eut chez les hommes une sorte de trêve parce qu'ils s'étaient tous attendus aux fulgurances des déflagrations nucléaires, aux ondes de choc, à la combustion subite, à l'anéantissement immédiat, ce qui ne se produisit pas. Et puis on vit tomber lentement cette cape de brouillard blanc qui n'était plus secoué par les déflagrations, et personne ne savait ce que c'était, et on se livrait aux suppositions les plus horribles concernant le moment où elle se trouverait au niveau du sol. Effectivement, la vapeur blanche se répandit sur la terre, et un brouillard uniforme s'étendit partout, pénétrant à l'intérieur des maisons, dans les souterrains, dans les refuges, à travers les moindres interstices. Pétrifiés de terreur, les gens enfermés dans des cachettes les plus invraisemblables virent s'infiltrer la bave blanche du gaz qui ne connaissait pas d'obstacle. Certains commencèrent à tousser, d'autres, agenouillés, priaient. La mort était arrivée. Mais les quintes de tous cessèrent. Les gens se regardaient les uns les autres en silence, incrédules de ne pas se sentir atteints. Rien. Ni sensation de suffocation, ni brûlure, aucune perception douloureuse. Est-ce que les savants russes se seraient trompés dans leurs calculs? Est-ce que le gaz aurait perdu, chemin faisant, son pouvoir démoniaque? La vapeur blanche pénétra également dans le refuge super blindé de la Maison Blanche. Ils avaient tous mis leurs masques, mais ceux-ci n'arrêtèrent pas les effluves du gaz qui effleurait les joues comme une caresse. Tout à coup, le président des États-Unis, d'un geste viril, arracha son masque et secoua l'épaule du secrétaire d'État pour qu'il en fasse tout autant. Bien qu'avec répugnance, le secrétaire d'État obéit. Tous ceux qui étaient présents l'imitèrent. Le refuge était désormais complètement empli de vapeur opaque. Pourtant, personne n'était encore mort. « Well !» dit le président des États-Unis. « Ce que je ne réussis pas à comprendre, c'est pourquoi il nous a fallu autant de temps pour voir clair. » « Ah oui, c'est vraiment incroyable !» fit le secrétaire d'État. « La dictature du prolétariat !» lancera péremptoire le président. « Mais il n'y a pas d'autre solution possible. Et c'est tellement évident !» Le secrétaire d'État se donna un grand coup de poing sur le front. « Mais quelle bande d'imbéciles nous étions !»« Mais quel est ce bruit dehors ?» demanda le président. « C'est la foule !» informa un des secrétaires. « Il y a au moins 100 000 personnes qui acclament la révolution socialiste !» « Les chers garçons, dit le président, que Dieu les bénisse. Pardon, je disais Dieu par habitude. Hein. À propos, a-t-on envoyé à Moscou la demande d'armistice ? Mais certainement, certainement, bien sûr, le rassura-t-on. Et en Russie, c'était à peu près la même chose, avec un écart de 3/4 environ. L'inquiétude, l'angoisse, le sens de la fatalité, l'attente de la mort, ils étaient des hommes, eux aussi, faits de chair et de sang, ni plus ni moins que les Américains. Et voilà que dans le ciel, des explosions analogues, des jets de vapeur blanche, des nuages lourds de brouillard, un orgasme collectif, l'incrédulité en se sentant encore vivant. Dans le refuge du Kremlin, le secrétaire général du parti, le chef tout-puissant, arracha son masque saturé de gaz. Il donna une bourrade au président du conseil qui était assis près de lui. « Da-da !» dit-il. « L'heure est venue !» Seulement, il y a une chose que je ne réussis pas à comprendre. C'est comment nous avons pu supporter jusqu'à aujourd'hui cette idiotie de communisme. À propos, il se tourna vers le ministre des Affaires étrangères qui avait encore son masque. « J'espère que la demande d'armistice à ces sympathiques Américains est déjà partie. » « Bien sûr, camarade secrétaire du parti. »« Camarade, mon œil, appelle-moi monsieur. » Et c'est ainsi que l'arme secrète échoua. Les savants, chacun de leur côté, à l'insu des autres, à force d'étudier et de faire des expériences, avaient trouvé le moyen de gagner la guerre sans coup férir, en moins d'une heure, le gaz persuasif, comme ils l'avaient appelé, chargé d'idéologie irrésistible pour l'esprit humain. Rien d'atomique, pas de destruction, pas de carnage, seulement une substance éthérée qui prenait possession instantanément des cerveaux. Le fluide soviétique inoculait le marxisme dans les têtes américaines. L'américain insufflait la démocratie dans les têtes soviétiques. Et tout avait fonctionné à la perfection. De façon foudroyante, l'entière population des États-Unis, sauf dans des petits îlots négligeables où le gaz n'était pas parvenu, fut convertie au communisme. L'entière population de l'Union des républiques socialistes soviétiques fut convertie à la liberté capitaliste. Naturellement, les deux pays exultèrent à l'arrivée de la demande d'armistice. Ils crurent à leur complète victoire. Mais aux premières tractations, les parlementaires restèrent de glace. Et les rôles étant inversés, la guerre froide recommença.
Sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. Et bien que mon cœur soit nu, mon âme est revêtue de pudeur et d'impudence, sans te faire offense. Mieux ne vaut pas tenter sa chance, rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur, je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis. Non, pas sur les lèvres, même pas en rêve, à 100 pour sûr, où tu mangeras ton pain gris. Mon cœur est endurci. Ne tire pas sur l'ambulance, car de la potence, plus rien n'a plus d'importance. Rien ne dure au-dessus de la ceinture. Sur la bouche, je sais, je touche le fond du lac. Le temps des cerises est mort, le diable est dans le corps. Non, pas sur les lèvres, non, c'est pas mièvre, c'est pas le trac. Mais je préfère me donner cru, sans revers ni refus. Rendons-nous à l'évidence, tout est cuit d'avance. Nous ne vaut pas tenter sa chance, rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, je sais c'est louche, puisque ma peau a l'odeur de ton odeur. Au dehors, il fait chaud. Non, pas sur les lèvres, jamais de trêve et pas d'assaut. Le sol et le ventre, entre l'oubli et l'oubli, bel oiseau du paradis, joue plutôt, je s'interdis, rien ne dure au-dessus de la ceinture.
La jeune fille qui tombe, tombe, tombe. Martha, 19 ans, se pencha en haut du gratte-ciel et s'apercevant au-dessous d'elle la ville qui resplendissait dans le noir, elle fut prise de vertige. Le gratte-ciel était en argent, suprême et heureux en ce beau soir très pur, tandis que le vent étirait de légers flocons de nuages, çà et là sur un fond d'azur absolument incroyable. C'était en effet l'heure à laquelle les villes sont saisies par l'inspiration, et celui qui n'est pas aveugle en a le souffle coupé. De ce fait aérien, là, la jeune fille voyait les rues et la masse des immeubles se contorsionner dans le long spasme du crépuscule, et là où finissait la blancheur des maisons, commençait le bleu de la mer et d'en haut semblait en pente. Et comme de l'Orient venaient des voiles de la nuit, la ville devint un doux abîme grouillant de lumière et qui palpitait. Il s'y trouvait des hommes puissants et des femmes plus puissantes encore, les fourrures et les violons, les voitures d'onyx, les enseignes phosphorescentes, des boîtes de nuit, les portiques des palais éteints, les fontaines, les diamants, les antiques jardins taciturnes, les fêtes, les désirs, les amours. Et au-dessus de tout cela, de cet enchantement bouleversant du soir qui fait rêver la grande grandeur et de gloire. En voyant toutes ces choses, Martha se pencha exagérément par-dessus la balustrade et s'abandonna dans le vide. Elle eut la sensation de planer dans l'air, mais elle tombait. Étant donné l'extraordinaire hauteur du gratte-ciel, les rues et les places tout au fond, en bas, étaient extrêmement lointaines. Qui sait combien de temps il faudrait pour y arriver? Mais la jeune fille tombait. Le soleil, qui n'était pas encore complètement couché, fit de son mieux pour illuminer la petite robe de Martha. C'était un modeste vêtement de printemps, acheté en confection et bon marché. Mais la lumière lyrique du coucher de soleil le magnifiait et le rendait presque chic. Au balcon des milliardaires, des mains galantes se tendaient vers elle en lui offrant des fleurs et des verres. « Un petit drink, mademoiselle ?»« Gentil petit papillon, pourquoi ne t'arrêtes-tu pas une minute parmi nous ?» Elle riait tout en voletant, heureuse. Mais en attendant, elle tombait toujours. « Non merci, mes amis, je ne peux pas, je suis pressée d'arriver. Mais d'arriver où ?» lui demandait-il. « Ah, ne me demandez pas, répondait Martha. » Et elle agitait les mains par un salut familier. Un grand jeune homme brun, très distingué, allongea le bras pour la saisir. Elle lui plaisait, mais Martha s'esquiva adroitement. « Comment osez-vous, monsieur ?» Et elle trouva le temps de lui donner du bout des doigts une pichenette sur le nez. Les gens de la haute s'occupaient donc d'elle et cela la remplit de satisfaction. Elle se sentait fascinante, à la mode. Sur les terrasses fleuries, au milieu des allées et des venues, des vallées en blanc et des bouffées de chansons exotiques, on parla pendant quelques minutes, peut-être moins, de cette jeune fille qui passait, de haut en bas, suivant un chemin vertical. Certains la jugeaient belle, d'autres comme ci, comme ça, tous la trouvaient intéressante. « Mais vous avez toute la vie devant vous, lui disait-il, pourquoi vous pressez-vous autant ?» Vous avez bien le temps de courir et de vous essouffler. Arrêtez-vous un moment auprès de nous. Ce n'est qu'une modeste petite réunion entre amis, mais j'espère que vous vous y plairez quand même. » Elle s'apprêtait à répondre, mais déjà l'accélération due à la pesanteur l'avait portée à l'étage inférieur, à 2, 3, 4 étages plus bas, comme on tombe joyeusement quand on a à peine 19 ans. Certes, la distance qui la séparait du bas, c'est-à-dire du niveau de la rue, était immense, moins qu'il y a qu'un instant, bien sûr, mais toutefois, elle demeurait encore considérable. Entre-temps, cependant, le soleil s'était plongé dans la mer, on l'avait vu disparaître, transformé en champignon rougeâtre et tremblotant. Ses rayons vivifiants n'étaient plus là pour illuminer le vêtement de la jeune fille et en faire une comète séduisante. Heureusement que les fenêtres et les terrasses du gratte-ciel étaient presque toutes éclairées et leurs reflets intenses la frappaient en plein au fur et à mesure qu'elle passait devant. Maintenant, Martha ne voyait plus uniquement à l'intérieur des appartements des compagnies de gens sans souci. De temps en temps, il y avait aussi des bureaux et des employés en blouse noire ou bleue étaient assises devant des petites tables en longue file. Plusieurs d'entre elles étaient jeunes comme elle, parfois même davantage, et fatiguées désormais de la journée. Elles levaient de temps à autre les yeux de leur occupation et de leur machine à écrire. Elles aussi la virent et quelques-unes même coururent à la fenêtre. « Où vas-tu ? Pourquoi une telle hâte ? Qui es-tu ? » lui criait-elle. Et on sentait dans leur voix quelque chose qui ressemblait à de l'envie. « On m'attend en bas ! » répondait-elle. « Je ne peux pas m'arrêter. Excusez-moi. » Et elle riait encore en voltigeant avec légèreté le long du précipice. Mais ça n'était plus les éclats de rire d'avant. La nuit était sournoisement descendue et Martha commençait à sentir le froid. À ce moment, en regardant en bas, elle vit à l'entrée d'un immeuble un vif halo de lumière. De longues automobiles noires s'arrêtaient. À cause de la distance, elles n'étaient guère plus grandes que des fourmis. Et il en descendait des hommes et des femmes pressés d'entrer. Il lui sembla discerner dans ce fourmillement le scintillement des bijoux. Au-dessus de l'entrée flottaient des drapeaux. Il était évident qu'on donnait là une grande fête, exactement celle dont Martha rêvait depuis qu'elle était jeune petite fille. Il ne fallait surtout pas la manquer. Là-bas l'attendait l'occasion, la fatalité, le roman, la véritable inauguration de la vie. Est-ce qu'elle arriverait à temps ? Avec dépit, elle s'aperçut qu'à une trentaine de mètres plus bas, une autre jeune fille était en train de tomber. Elle était bien plus belle qu'elle et portait une petite robe de cocktail qui avait de la classe. Qui peut savoir pourquoi elle descendait à une vitesse très supérieure à la sienne, au point qu'en quelques instants, elle la distança et disparut en bas. En dépit des appels de Martha, elle allait, c'est sûr, arriver à la fête avant elle. C'était peut-être un plan calculé d'avance pour la supplanter. Et puis Martha se rendit compte qu'elle n'était pas les seules à tomber. Tout au long des flancs des gratte-ciel, d'autres jeunes femmes glissaient dans le vide, les visages tendus dans l'excitation du vol, agitant les mains comme pour dire « Nous voici, nous sommes ici, c'est notre heure, accueillez-nous et faites-nous fête !» Est-ce que le monde n'est pas à nous ? C'était donc une compétition, et elle n'avait qu'une pauvre petite robe de rien du tout, tandis que les autres exhibaient des modèles de grands couturiers et que certaines même serraient sur leurs épaules nues de larges étoiles de vison. Martha, qui était tellement sûre d'elle quand elle avait commencé son vol, sentait maintenant une sorte de frisson sourde au plus profond de son être. Peut-être était-ce simplement le froid. Mais peut-être aussi la peur, l'angoisse de s'être trompée depuis le début sans espoir d'y remédier. La nuit était presque complètement tombée maintenant. Les fenêtres s'éteignaient l'une après l'autre. Les échos de musique se raréfiaient. Les bureaux étaient vides. Aucun jeune homme ne se penchait plus à la fenêtre pour lui tendre la main. Quelle heure était-il ? L'entrée de l'immeuble en bas, entre-temps, elle s'en était approchée et pouvait en distinguer désormais tous les détails d'architecture. Était toujours illuminée, mais le va-et-vient des automobiles avait cessé. De temps à autre, au contraire, des petits groupes sortaient par la grande porte et s'éloignaient d'un pas fatigué. Et puis les lampes de l'entrée, elles aussi, s'éteignirent. Martha sentit son cœur se serrer. Hélas, elle n'arriverait pas à temps pour la fête. Jetant un coup d'œil en l'air, elle vit le sommet du gratte-ciel dans toute sa cruelle puissance. C'était la nuit noire, les fenêtres encore allumées étaient rares et disséminées aux derniers étages. Au-dessus du gratte-ciel, la première lueur de l'aube s'allongeait lentement. Dans un office du 20e étage, un homme sur la quarantaine était en train de siroter son café matinal en lisant le journal, tandis que sa femme faisait le ménage dans la pièce. Une pendule sur le buffet marquait 9h moins le quart. Une ombre passa soudain devant la fenêtre. « Alberto !» cria la femme. « T'as vu ? Une femme qui vient de passer !» Comment était-elle ? fit-il sans lever les yeux de son journal. « Oh, une vieille !» répondit sa femme, « une pauvre petite vieille toute décrépite. Elle avait l'air épouvantée. Oh, » Toujours comme ça, grommela l'homme. À ces étages-ci, on ne voit passer que des vieilles. Les belles filles, on ne peut les reliquer que tout là-haut, vers le 150e étage. C'est pas pour rien que ces appartements-là coûtent si cher. Oui, mais si au moins, observa sa femme, on entend quand elle s'écrase par terre. Cette fois-ci, on n'aura même pas entendu, dit-il en secouant la tête, après avoir tendu l'oreille quelques instants. Et il but une autre gorgée de café. When your day is long and the night is yours alone. Sure you've had enough of this life. Well, hang on. Don't let yourself go. Everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, oh, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much.
C'était notre cinquième émission d'été consacrée à Dino Buzzati. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres lectures tirées du livre Le Cas. À très bientôt.